Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. Le titre de cette émission correspond parfaitement à notre invité. Arnaud Tersiquel est aux commandes d'At Home, un espace de travail partagé. Vous allez l'entendre, At Home a le vent en poupe et va s'investir dans la future cité des startups à Toulouse. Bonjour Arnaud Tersiquel.
Bonjour Doris.
Nous sommes ravis de vous recevoir. Merci d'être avec nous pour Le Goût d'entreprendre. Alors, At Home, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de coworking ?
C'est bien plus que ça, j'ai envie de dire. C'est une démarche déjà de communautaire.
Ouais,
on a créé ça à l'origine il y a 5 ans maintenant, 4 ans, entre 4 et 5 ans, pour partager des instants, des moments, des expériences, des compétences, plus loin qu'un espace de travail classique.
D'accord.
Et sous format associatif, on a développé en fait une offre de services assez complète et aujourd'hui qui porte ses fruits puisqu'on héberge au quotidien entre 300 et 400 personnes à Toulouse et à Paris.
Alors 300, 400 personnes qui sont des créateurs d'entreprises, expliquez-nous.
Alors on héberge que des entreprises qui sont déjà lancées, on n'est pas un incubateur, on n'est pas un accélérateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas coacher, on ne va pas enseigner ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire.
D'accord.
Du coup, on héberge des entreprises qui sont déjà lancées, qui ont déjà une activité, du chiffre d'affaires qui tourne. Et c'est les entreprises qui vont recruter, lever des fonds, avoir besoin d'un effet de levier par le réseau, de se structurer tout simplement.
Ouais, ouais.
Et là, la force de la communauté et surtout de l'échange de pair à pair entre en jeu.
C'est ça, voilà.
La clé de la réussite.
Voilà, exactement. C'est très riche en fait, c'est très dense.
Tout à fait. C'est une notion communautaire en fait. C'est pas descendant ni montant, c'est de pair à pair, comment on peut tous échanger. Et nous, en tant que cofondateurs d'Atom, on est 5 à l'origine de cette aventure, on a pour vocation de se placer au même niveau en fait que notre communauté et du coup de partager, de poser les questions et de contribuer au même niveau que la communauté.
Ça veut dire qu'on apprend tous les jours en fait, on échange, on apprend des uns des autres. Vous arrivez à faire du business entre vous aussi?
Surtout pas. on ne va pas recréer un cercle, on va dire fermé,
voilà,
d'échange et dépendant. C'est un peu comme la vie, on apprend, on se construit de jour en jour, sans certitude et toujours, en tout cas c'est une règle, avec confiance les uns envers les autres, mais aussi respect et écoute, parce qu'on n'est pas là pour vendre quelque chose à l'autre, on est surtout là pour apprendre, se réinventer et être challengé.
Alors, vous avez un accompagnement quelque part, vous me disiez non, hein, il ne s'agit pas d'un incubateur, ça on a bien compris, mais est-ce que par exemple, si un entrepreneur vient vous voir et dit voilà, j'ai besoin là, sur tel ou tel point particulier de mon entreprise, de me développer, comment je peux faire? Est-ce que ça, vous êtes en mesure d'amener des éléments?
Tout à fait, en fait, les entreprises viennent nous contactent. Ça, c'est le premier point d'entrée. On n'a pas de on a un simple formulaire de contact ou un numéro de téléphone, mais on ne veut pas créer de concours ou de dossier à remplir. Ce n'est pas le but. Nos entrepreneurs qui nous rejoignent sont déjà passés par ces étapes-là et bien souvent lassés. Et à partir du moment où ils nous contactent, on se pose avec eux et on essaie de comprendre quelle est leur philosophie, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire demain et de quoi ils ont besoin. Et en fonction de ça, on leur présente, nous, comment fonctionne la communauté, les services qu'on a créés pour eux et ce qu'on ne sait pas faire non plus. Il faut dire ce qu'on sait faire, mais ce qu'on ne sait pas faire aussi.
Vous pouvez nous donner des exemples, Arnaud, un peu précis d'entreprises qui sont chez vous?
Tout à fait. Bon, on a des entreprises qui sont de tout secteur. Donc, ça peut être du B2B, du B2C. On peut être ensuite sur des principes de marché, ce qu'on appelle des marketplaces, donc de l'offre et de la demande. On peut être aussi sur une offre de service qui est développée. On a donc, par exemple, mes voisins de bureau, si j'ai envie de dire, si je me place au même niveau qu'eux, c'est Blixo. C'est une entreprise qui travaille sur le bien-être des salariés en entreprise.
Que nous avons reçu dans Le Goût d'entreprendre également.
Mais super. On a Empreinte Mon Toutou, qui est en fait un réseau de
Thibaut,
gens
qui est venu
changer.
Également.
Exactement. Vous connaissez tout Toulouse.
On connaît tout le monde.
Mais pour prendre des exemples à Paris, certainement que vous comprenez pas dans ce cas-là.
On connaît pas.
On a une startup qui s'appelle Upflow et qui va faciliter des systèmes, qui va réduire en fait le temps de paiement pour les entreprises auprès de leurs clients. Et donc ça, en fait, on agit sur plein de secteurs et ce n'est pas la règle. L'enveloppe et le secteur, les problématiques internes des entreprises sont toutes les mêmes et on agit sur ça. En fait.
D'accord. Alors, on part du principe qu'ensemble, on va plus loin, c'est ça?
Exactement.
C'est un vrai bonus, c'est un vrai véritable atout
pour les entrepreneurs. Oui, on se rend compte que les entreprises ne viennent pas en fait simplement pour chercher un bureau. Qu'est-ce qu'elles retrouvent à travers l'hébergement? En fait, c'est la capacité de moduler ces espaces. Je ne sais pas, dans 6 mois... Combien je serai? Est-ce que je vais augmenter? Est-ce que j'aurai un problème? Je vais devoir réduire. Et du coup, elles s'affranchissent du bail classique, un bail que passent les entreprises, un 3, 6, 9, ce qu'on appelle classiquement, c'est-à-dire on s'engage pour 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Nous, on va proposer une forme de souplesse, un abonnement. Elles payent au mois ce qu'elles ont besoin de consommer et elles partent si elles doivent partir ou elles se développent si elles doivent se développer. Une entreprise chez nous reste 2 ans et demi en moyenne, ce qui est du très très long terme. Et en fait, derrière, toute une offre se développe de manière un peu sur mesure à la demande. Ça va de l'échange échanges par famille de métier, ce qu'on appelle des squads, mais aussi des passions avec les ministères. On a des ministres du bien-être, on a des ministres de l'œnologie, des soirées. En fonction des besoins et des envies de chacun, ils vont créer leur propre ministère.
D'accord.
Et du coup, on va décloisonner l'entreprise qui fonctionne souvent par silos pour arriver sur une fonction horizontale, par métier.
Ouais.
Et on va aller chercher une profondeur, cette fois-ci, des individus par les passions des personnes qui sont membres de la communauté.
Est-ce que vous avez noté, j'allais dire, des différences entre le moment où vous avez créé aujourd'hui, ouais. des besoins, identifier des besoins particuliers ?
Ouais, on sent qu'il y a une lourde tendance aujourd'hui qui se développe. À l'origine, en 2015, quand on a créé Atom sans savoir ce qu'on faisait, en réalité, on a répondu à notre propre besoin. Et d'ailleurs, c'est un symptôme, on a regardé le marché qu'une fois qu'on était installé à Paris et qu'on avait développé deux lieux à Toulouse. Et en fait, on a développé quelque chose d'un peu de sur-mesure. À partir de là, on sent qu'il y a une lourde tendance dans un monde qui devient un peu plus complexe et toujours plus rapide, de ne pas avoir toutes les clés. Et du coup, de devoir pouvoir interagir avec n'importe qui, n'importe quand et n'importe où, et s'affranchir de cette dimensionnement-là. Donc en fait, en retrouvant un espace un peu confiné, à l'origine on était souvent sur des très grands espaces partagés
ouais,
avec
ouais.
des bureaux.
Genre open space,
voilà,
c'est
très,
ça
très open
voilà,
space.
Ouais.
Aujourd'hui, on arrive sur des formats où on va couper des espaces en petits bureaux, en zones ouvertes, en zones fermées, salles de réunion, zones de détente, totalement adaptées et mixées. Et du coup, c'est ça un peu la grosse tendance, c'est personnifier une expérience unique. On se retrouve son entreprise entre nous, mais dans une communauté plus grande.
D'accord, d'accord. C'est le retour de l'humain. C'est le... Alors, beaucoup d'entreprises hein, jouent sur cette formule, mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Ouais. Mais vous l'avez vraiment constaté et ce ne sont pas que des mots.
Mon côté idéaliste va dire qu'il n'est jamais parti, mais en tout cas, on va rééquilibrer. On va retrouver une mesure des choses, une compréhension des choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte vraiment. C'est retrouvons un équilibre. On n'a pas vocation à révolutionner le monde. On a juste vocation, et je vous en parlais peut-être après, de proposer des solutions là où il est nécessaire d'échanger un petit peu plus, là où il est nécessaire d'apprendre un petit peu plus ensemble. Ça, c'est le métier d'Atom, en fait, en réalité.
Arnaud, on se souvient de vous. On vous avait reçu dans le goût d'entreprendre, c'était en 2015, pour les ateliers Tercy. Vous faisiez complètement autre chose.
Oui, et pourtant, c'était le tout début d'Atom. On le communiquait assez peu. J'avais pour vocation à l'origine de relancer une histoire familiale qui datait de 1934. C'est une aventure entrepreneuriale qui a duré 3 ans en sortant de l'incubateur de l'école de TBS, Business School, de créer une entreprise pour relancer cette histoire familiale et prouver qu'un Made in France était toujours possible.
C'est ça, vous étiez dans la chaussure.
Chaussure pour femmes, inspirée par des artistes, où on concevait nos chaussures à Romans-sur-Isère en France. Et je parle au passé, puisque cette aventure s'est arrêtée en 2016. Parce que tout simplement, on n'a pas réussi à atteindre un niveau de volume suffisant de chaussures pour trouver un équilibre financier. Et du coup, on a préféré stopper pour ne pas aller trop loin et continuer une aventure sous une autre forme, mais faire le constat qu'on n'était pas arrivé à atteindre nos objectifs sur le domaine de la chaussure et du coup arrêter une entreprise.
Soyons positifs. Il faut savoir se remettre en question. C'était une belle expérience.
Ouais, c'était. Mais quoi qu'il arrive, même un échec est ultra positif. On apprend, on se remet en question, on écoute un peu plus. Et puis on en tire surtout l'expérience. C'est ça qui, je crois, on peut définir une expérience. Mais oui, c'est une expérience qui est marquée, qu'elle soit réussie ou échouée, d'une partie de réussite, en fait, en filigrane, et d'une partie d'échec aussi. Donc c'est là-dedans qu'il faut tisser, on va dire, son histoire et apprendre.
Il faut oser en parler, parce que c'est vrai que c'est encore, dans notre culture française, on a du mal quand même à dire « bon là, ça n'a pas marché ». On a du mal à le dire.
Oui, c'est une culture qui change. On a beaucoup parlé il y a 5 à 10 ans d'un changement nécessaire de posture aussi des banques, des acteurs publics, etc. Donc ça, c'est un petit peu entériné. Je pense qu'à l'inverse, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse en disant « tout est possible, on peut se relancer, échouer 10 fois, etc. » Ce n'est pas le but. Il y a aussi des engagements. L'entrepreneuriat n'est pas pédagogique. On ne fait pas de la pédagogie à travers ça. On n'est pas là non plus pour résoudre des problèmes personnels, d'ego, parce que c'est aussi un sujet. Beaucoup d'entrepreneurs ont besoin de visibilité. C'est pas le but, et je pense que derrière on reparle aussi de l'humain, on reparle de ces expériences là donc il faut trouver une mesure des choses.
Ouais, tout à fait. Une actualité brûlante chez vous également, Atom, et vous avez un projet sur le feu, même peut-être un petit peu plus engagé encore, avec la Cité des Startups. Alors déjà, première question, la Cité des Startups à Toulouse, elle est en construction. Naissance début 2020, c'est ça à peu près ?
Ouais. Livraison du bâtiment décembre 2020.
Alors ce sera
Décembre 2019.
Voilà, c'est ça. Donc premier semestre 2020, ce sera prêt. Qu'est-ce que c'est la Cité des Startups ?
Alors la Cité des Startups, son nom ne le présente pas parfaitement parce que c'est un nom de projet qui pourrait changer dans les prochaines semaines. C'est un lieu de 12 000 m2 déjà. Station F, qui est un lieu de référence en France, fait 30 000. Construit par Xavier Niel à Paris, ce lieu à Paris intègre 6 000 m2 de restaurants. Donc Station F à Paris, si on a des bureaux et l'activité classique, c'est 24 000 m2. On en fait 12 000 à Toulouse, avec un restaurant bien sûr intégré dedans, mais bien plus petit. Et du coup, on va se retrouver avec un outil à disposition du monde économique très dimensionné. Trop dimensionné peut-être, certains diront, les critiques. Mais en tout cas, une chance de créer un impact hyper important et structurant pour l'écosystème entrepreneurial au sens large à Toulouse et son territoire alentour. Puisque c'est un projet qui est porté par la région Occitanie. La région Occitanie a racheté un bâtiment, les anciennes halles La Técoère, qui datent de 1917, pour les transformer, les réhabiliter et en faire un lieu central de l'économie et de l'innovation au sens large. Et donc on va s'adresser non pas qu'aux startups, mais on va s'adresser d'abord aux citoyens, au monde éducatif. On va s'adresser bien sûr aux entrepreneurs start-up, mais aussi aux PME, TPE, PME, ETI et parfois des grands groupes. Le focus ne sera pas glissé sur les grands groupes, bien sûr, mais on va accompagner en fait toute la chaîne de l'entrepreneuriat. Et pour nous, une start-up reste une entreprise avec peut-être un modèle de financement spécifique, mais reste une entreprise. Et donc la Cité des start-up, comme son nom ne l'indique pas, va s'adresser à toutes les entreprises du territoire.
Donc c'est un incubateur ?
Alors, il y a plusieurs activités qu'on va retrouver dedans. C'est une plateforme immobilière au service de l'entrepreneuriat et de l'innovation en région. Donc pour ça, dedans, on va retrouver plusieurs acteurs. C'est Atom est un acteur majeur. On est le plus gros acteur dans la cité. Il faut savoir que la région aussi va continuer à porter son bâtiment puisqu'elle prend en charge des espaces communs qui porteraient trop lourd la charge pour les exploitants que nous sommes de partager, par exemple, une dalle de 1 200 m² pour de l'événementiel temporaire. Donc ça, la région est un acteur aussi continu. Ils ne vont pas rester juste investisseurs du passé. On va retrouver aussi Adoc, l'agence d'attractivité économique de la région. On va retrouver aussi Nubo, l'incubateur régional, qui fait aussi de l'incubation maintenant et de l'accélération.
C'est ça.
Donc on aura toute la chaîne accompagnée par Nubo, qui est une référence dans l'écosystème toulousain et qui sera implanté au cœur de la cité. Et puis enfin un Fab Lab avec une structure qui s'appelle Manatour, une structure toulousaine qui va animer un Fab Lab à destination d'une population large, éducative, citoyenne, chercheurs d'emploi et aussi entreprises.
Arnaud, vous restez avec nous, on va continuer à en parler dans un instant, à tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et deuxième partie de cette émission, merci d'être avec nous Arnaud Tersiquel, on vous connaît pour At Home, on va vous connaître bientôt un peu plus pour la Cité des Startups qui, vous nous le disiez il y a un instant, pourrait bien changer de nom. Bonjour Jean-Marc Fontaine.
Bonjour Doris.
Vous êtes un de nos coachs référents dans l'émission Le Goût d'Entreprendre. Jean-Marc, première question donc à notre invité.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Jean-Marc.
Alors j'ai passé un petit peu de temps sur votre site internet. Et sur votre site, vous vous définissez comme un agitateur de start-up. Alors, dites-nous pourquoi les start-up ont besoin d'être agitées et comment vous les agitez ?
Je vais renverser la remarque. Elles nous agitent au quotidien et elles nous poussent à se réinventer. J'en reviens à mes propos de tout à l'heure. C'est l'idée en fait de Atom, cette communauté n'est constitutive que par ses membres. Donc on n'agite pas grand-chose en réalité. C'est notre communauté qui s'agite. Nous, on est là pour structurer, faciliter les échanges et porter cette dynamique-là. Donc on est un agitateur au reflet de qui nous sommes à l'intérieur.
Vous êtes un facilitateur finalement.
On est un facilitateur sur certaines activités. On est aussi une forme de pépinière long terme. On ne sait pas définir exactement qui on est puisqu'on estime que on est au croisement de beaucoup d'activités. On est au croisement aussi d'une activité proche d'entreprises qui font l'actualité aux États-Unis comme WeWork. On est au croisement d'une forme de prolongation d'incubateur ou d'accélérateur et aussi une prolongation tout simplement d'un hôtel d'entreprise. Mais Atom, je vous en parlerai tout à l'heure, est un peu plus que tout ça. Et en fait, on a vocation à porter des plateformes immobilières là où il y a des besoins d'échange, mais ça peut être peut-être sur des artisans un jour ou des citoyens demain.
Est-ce que c'est là l'avenir du monde de l'entrepreneuriat ?
C'est une partie, une composante. On ne va pas héberger demain Airbus, ce n'est pas le but. Mais on est une partie prenante de toute une chaîne en fait, de l'entrepreneuriat au sens large. Donc on est représentatif d'un besoin, d'un segment marché.
Jean-Marc, une autre question.
Alors, j'ai continué mon exploration du site et j'ai vu qu'il était indiqué que la croissance n'est pas un fait, c'est notre culte. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi et en quoi c'est pour vous un culte ?
Alors, ça fait partie de nos valeurs. En fait, ça renvoie à nos valeurs. On a écrit une sorte de manifeste qu'on a écrit en fait en 2015 à la création. On a pris une petite journée pour se poser la question de qui on était et qu'est-ce qu'on voulait faire. À partir de là est né en fait un texte qui est assez limpide. On se l'est écrit en interne. On le garde toujours face à nous pour se poser la question. Et cette conclusion aussi, je vais la rajouter, au-delà du culte, c'est aussi grandir ou mourir. Alors, pourquoi ça? Alors,
C'est dur quand même.
C'est une référence à Booba, du rap, il faut le dire. Mais deux, c'est un peu plus que ça. Notre vocation, et on porte cette voie-là, mais d'autres ne la portent pas, c'est de dire on n'est pas là pour créer des entreprises qui vont rester stables à quelques salariés. Certains le font, c'est très bien, mais ce n'est pas notre vocation, puisque le modèle des startups a pour vocation d'être scalable, c'est-à-dire pour un euro investi, un euro de plus, on est capable de scaler du coup et de générer plus qu'un euro de résultats.
Donc de grandir.
De grandir. Mmh. Et donc par nécessité, on grandit. Se pose en revanche la question, et j'amène, je pense, la question suivante qui sera jusqu'où grandir et dans quelle mesure. Et donc là, c'est là où on renvoie aussi vers des valeurs qui sont l'esprit de famille. En fait, il y a le culte de la croissance, ça c'est une des premières valeurs, mais la deuxième valeur, c'est l'esprit de famille et la confiance.
C'est pas contradictoire, l'esprit de famille et la croissance. Quand on est en famille, ça veut dire que c'est un cercle relativement restreint.
Tout à fait.
Croissance.
Alors, croissance jusqu'où?
Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Non, on n'a pas encore réussi à créer nos licornes, c'est-à-dire des sociétés qui sont valorisées des milliards. On a bon espoir. Alors, juste pour revenir sur ça, pourquoi créer des licornes? C'est parce qu'en fait, je reviens au terme de scalabilité, c'est là où on a le plus d'efficacité en création de valeur. C'est-à-dire que les startups coûtent cher. Elles coûtent cher aux contribuables. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a des financements, il y a des subventions, il y a des garanties qui sont déposées et opérées notamment par BPI France. Alors BPI France ne perd pas d'argent, il faut le savoir. Elle prend des risques, souvent à la place des banques aussi, là où elles ne veulent plus aller. Mais elle gagne quand même de l'argent au final. Mais voilà, c'est un secteur qui est très accompagné, relativement structuré. Et donc la vocation, c'est aussi de qu'est-ce qu'on peut renvoyer à l'économie. Et donc c'est souvent par des entreprises qui vont être scalables, qui vont du coup renvoyer et créer beaucoup d'emplois. Se posera la question derrière de la stabilité et de ne pas en détruire ou de ne pas dégrader la qualité du travail. Et là, c'est plus nos valeurs et notre philosophie, peut-être un peu moins américaine sur certains côtés, un peu moins exigeante sur d'autres, qui va faire qu'on peut faire différemment.
Vous avez un exemple de ce type d'entreprise que vous avez accompagné et qui aujourd'hui va plutôt bien sur la région?
Ouais, alors aujourd'hui, on n'a pas de grosses licornes, ce qu'on appelle des licornes qui sont créées. Il y a Sigfox, qui est une entreprise qui existe depuis longtemps. Et on n'en connaît pas beaucoup d'autres. Aujourd'hui, à Toulouse, il y a des pépites qui poussent fort. On peut citer, alors qu'on n'a pas accompagné directement, mais on peut citer Delair, qui fait des drones.
De la technologie, ouais.
On peut citer Nayo, sur l'agriculture, et bien d'autres. Je ne vais pas toutes les citer pour ne pas me faire d'ennemis. mais ces structures-là, en fait, créent de la valeur. Ce n'est pas des licornes, elles n'ont pas atteint toute la scalabilité qu'on attend d'elle, mais c'est en cours.
Mais c'est en cours, oui, tout à fait, Jean-Marc.
Alors, vous faites référence à votre meute de start-up. Est-ce à dire que pour réussir à développer un business, l'entrepreneur doit être un loup prêt à dévorer tout ce qui se passe?
Non, on renvoie là plutôt l'image de la meute famille. C'est-à-dire qu'une meute va agir par des fonctionnements très spécifiques. Il va y avoir des gens qui vont être en tête de la meute lors de marches ou là où il y a des dangers et chasser, prévenir. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus lents, qui vont être à l'arrière de la meute et qui auront besoin d'une protection d'un chef de meute. Et c'est cette référence-là, en fait, de rôle et de qualité qui sont adaptés à notre communauté. Sur certains sujets, certains sont très très forts en pointe et vont pouvoir du coup agir, tester, prospecter et vont du coup accompagner ceux qui sont les derniers de cordée. En revanche, sur certains sujets, on inverse les rôles et d'autres vont être meilleurs. Et voilà, et on va jouer de ces qualités, de ces forces pour qu'il y ait toujours en tête sur certains sujets des personnes dans notre communauté.
Est-ce qu'on peut, Arnaud, aujourd'hui créer son entreprise tout seul dans son coin? On se dit, moi j'ai besoin de personne.
C'est
ça
possible.
Marche?
C'est possible, mais ce n'est pas les mêmes valeurs. C'est louable tout autant et on ne crée peut-être pas forcément d'emplois. On a des entreprises aujourd'hui, des entrepreneurs qui nous disent, moi je ne veux plus embaucher, je veux travailler qu'avec des freelances et je veux ne pas avoir de bureau. Parce que je veux voyager. Et pourquoi pas à demi-mot? Parce qu'en fait, la question n'est pas de créer de l'emploi, c'est plutôt créer de la valeur. Combien on redistribue à chaque personne? Et un euro n'a pas la même valeur de la manière avec laquelle elle est donnée. Je préfère presque qu'une entreprise, et c'est ce qui se passe chez nous en fait en réalité parfois, une personne se place en auto-entrepreneur parce qu'elle est experte sur un sujet. On a plusieurs entreprises qui vont travailler avec elle. Elle va gagner plus d'argent que si elle était salariée, qu'un salarié qui va se retrouver dans une entreprise très classique et qui n'aura pas de reconnaissance, de valorisation.
Ouais, ouais, donc c'est du cas par cas.
Ouais, ouais. Il faut proposer une dimension autre, qui est une notion qualitative. Combien vaut un euro et de quelle manière il est amené?
C'est ça, tout à fait, Jean-Marc.
Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de cross-fertilisation entre les différents projets qui ont pu qui sont réussis finalement?
Ouais, je vais prendre l'exemple d'hier. Je suis arrivé à mon bureau et j'avais à côté de mon bureau une salle de réunion où plein de gens étaient là. On avait des personnes de notre communauté, de toute entreprise, mais aussi on a une communauté qui n'est pas logée au quotidien. Je vous parlais tout à l'heure de 300 à 400 personnes qui sont hébergées au quotidien, mais on a aussi des entrepreneurs qui ont trop grandi, trop vite. Je peux citer notamment Schoolmove, ILEC, ces entreprises qui ont levé 6 millions pour ILEC.
Et qui communiquent. Hein.
Voilà, qui commencent à communiquer, à s'ouvrir au public. C'est des dizaines et des dizaines, jusqu'à 50 000 nouvelles personnes qui sont arrivées sur la plateforme ILEC pour consommer l'excès toujours plus verte. Et en fait, ces gens-là restent dans la communauté, payent un abonnement pour rester dans la communauté chaque mois et font participer leurs équipes à des squads. Et donc hier, en fait, j'ai observé ça. Différentes personnes de différentes entreprises qui parlaient de thématiques autour du care, ce qu'on appelle du support client, et de comment, hier c'était un sujet autour du tracking et de la performance, de la satisfaction client, quels outils, quelles méthodologies, etc. Et moi j'étais heureux parce que j'ai une personne de mon équipe, Marion, qui s'occupe de la communauté, qui est dédiée à ça, qui travaille, qui audite sa performance, la qualité de la satisfaction de nos membres, et qui était là, elle aussi, pour écouter, et non pas pour agir ou donner une leçon, elle était là en se plaçant, mais voilà ce qu'on fait chez Atom, et il est qu'à partager ce qu'il faisait, et j'ai Empruntement de Toutou ou Blixo pour parler d'eux, qui étaient là aussi, avec leur branche care pour partager, etc. Et à partir de là, on en fait des bonnes pratiques et on nivelle par l'eau, cette fois-ci, la qualité des
D'accord,
échanges.
D'accord, voilà, tout à fait, le partage. Jean-Marc.
Oui. Quand les entreprises quittent la communauté Atom, c'est pas forcément parce qu'elles disparaissent, c'est parce qu'elles vont vivre leur propre vie.
Tout à fait.
Que vous disent les entrepreneurs sur ce qu'ils ont, sur ce que ça leur a apporté, sur ce qui les a fait grandir finalement? Est-ce que quelque part c'est pas une manière, un apprentissage des valeurs d'entreprise qui se fait à l'intérieur de votre communauté?
Certainement. J'ai envie d'ajouter que c'est un apprentissage tout simplement de la vie. Parce que c'est en fait ce qui en ressort quand une entreprise part d'Atom, parce que peut-être, ce qui se passait avec ILEC, ils nous ont dit on va recruter 30 personnes, on va doubler de taille dans 3 mois. Comment on fait? Bon, là, on n'avait pas trop de solutions à leur proposer malheureusement, même si on est convaincu qu'on peut leur apporter de la valeur encore aujourd'hui. Eh bien, notre souvenir est commun, en fait, c'est une notion d'aventure, parce qu'on aura vécu ensemble des choses. C'est une forme de colocation, en fait, qui est vécue, et on en tire aussi, comme dans un esprit de famille, des accrochages, des réussites, des découvertes ensemble. Et donc, ce qui en ressort au bout de 2 ans, 3 ans, pour ILEC, c'est plus de 3 ans au sein d'Atom, et d'ailleurs, c'est une entreprise qui est passée avant par l'incubateur Nubo, qu'on va retrouver dans la CD Startup. C'est une entreprise qui va raconter son aventure, parce qu'elle arrive chez nous, c'était 2 personnes, 2 fondateurs. Elle en ressort à 30 avec une perspective de recruter 30 personnes de plus et passer à 60.
Pensez-vous que leur séjour est inspirant pour un certain style de management finalement?
Tout à fait, oui. On a en fait un chef d'entreprise. Une chef d'entreprise égale un type de management. On est tous différents, on est tous uniques et on va observer, apprendre. Et donc c'est pour ça aussi que quand on parle de squad, un squad care, pour parler des sujets donc de satisfaction client, on a aussi la même chose chez les fondateurs. Et donc ils vont se retrouver et partager. Ils vont dire, bah, moi j'ai eu tel problème là-dessus, comment on fait? Comment tu as géré cette situation? J'ai eu tel problème sur tel recrutement. Voilà. Et là on va partager et en fait du coup essayer d'améliorer cette approche. On n'est pas parfait. Il y a des erreurs, il y a des insatisfactions aussi, il y a des échecs de recrutement, de management et autres, mais on s'améliore chaque jour et par l'exemple. Oui. Par exemple.
Je voudrais revenir, Arnaud, sur l'immobilier. On l'abordait tout à l'heure. Est-ce que les espaces de coworking se sont effectivement multipliés ces dernières années dans les villes? On les voit fleurir, notamment aux abords des grandes agglomérations. Ça peut être une solution à une crise du logement, peut-être, ou à une crise du logement pour les bureaux?
Oui, tout à fait. C'est une chaîne, en fait, globale. Encore une fois, une personne peut avoir besoin de travailler chez elles. On le voit notamment chez Airbus. Airbus réfléchit aujourd'hui et se questionne sur décentraliser des espaces de travail un peu partout dans la ville. Je pense que c'est un gain tant qu'on n'aura pas une troisième ligne de métro. Et ça peut être aussi une question à se poser. Est-ce qu'on a besoin de faire transiter autant de personnes tous les jours? J'en discutais encore récemment avec M. Latt.
C'est un vrai problème.
Avec M. Latt qui me disait, je l'interrogeais, je lui disais, mais pourquoi cette future ligne de métro qu'on pourrait voir dans quelques années ne va pas à l'aéroport? C'est quelque chose de statutaire. Quand on arrive dans la ville, de ne pas vivre une expérience. Alors, il m'a assuré que l'expérience allait être garantie avec une ligne qui allait faire la jonction. Mais il m'a aussi dit que chaque jour, c'est 2000 personnes qui utiliseraient cette troisième ligne de métro depuis l'aéroport, alors qu'Airbus, c'est 18 000. Et donc, en fait, c'est vrai que là, on oublie. Mais Airbus propose à des salariés, des dizaines de milliers de salariés, on n'est pas à 100 000 salariés, mais c'est des dizaines de milliers de salariés, de transiter à travers une ville tous les jours, souvent seul dans une voiture. Alors, il y a plein d'autres évolutions, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement?
Il va falloir. À un moment, il va falloir. Les villes, que ce soit Toulouse ou d'autres villes, sont en train d'exploser.
Tout à fait. Je pense qu'on va vivre un phénomène qui va être marquant dans les prochaines années. On a connu des expansions avec des expertises. On a créé le lieu où on allait rassembler tous les salariés, où la cité des startups va rassembler toute l'économie de demain. On réfléchit aujourd'hui à des concepts où on va remettre de l'artisanat dans chaque quartier. Aujourd'hui, on est convaincu que Atom, dans sa vocation à se placer là où il y a des besoins d'échange, de compréhension, de partage, donc on l'a fait au niveau des startups, on va le faire demain au niveau des entreprises avec la cité des startups, on pourra le faire peut-être demain, dans un plus long terme, avec des artisans, en leur disant « vous êtes ubérisé, vous êtes digitalisé », et les banques nous font de moins en moins confiance pour de l'investissement. Comment on fait ? Et on est convaincu qu'on va pouvoir proposer des plateformes immobilières pour porter des outils de production semi-industriels, artisanaux, concentré dans un quartier et proposer à un artisan de ne plus investir dans sa machine, mais de prendre un abonnement. Et le jour où ça ne va pas, il stoppe. Mais il va pouvoir proposer à ses clients de bénéficier d'un outil de production très large et du coup, et faire des économies et rencontrer d'autres artisans qui ont les mêmes problématiques.
On revient sur la notion de partage.
Ouais. Et réintégrer ça dans des quartiers aussi. Je suis convaincu qu'on peut décentraliser ça et rendre l'artisanat à ces quartiers comme on l'avait à l'époque, les noms de rue. Baladons-nous dans Toulouse et redécouvrons les noms de rue et on va redécouvrir des artisans, des métiers.
Arnaud Tersiquel, merci. Atrome, on peut vous joindre facilement, on vous trouve très facilement sur le net. Merci à vous d'avoir merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci Jean-Marc Fontaine et merci bien évidemment à vous tous de nous écouter, toujours plus nombreux. Vous souhaitez nous joindre, c'est facile, entreprendre@radioprésence.com.